Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de prendre la parole à l'occasion de ce baptême parce que ça va me permettre de parler de choses a priori dont j'aurais peut-être pas parlé une autre fois, quoique. En fait, j'ai décidé d'en parler avant parce que normalement c'est des petits prophètes, hein, mais j'avais plus envie des petits prophètes. Avec Jonas, j'avais dit tout ce que j'avais à dire. Et donc, quand j'avais une autre idée, j'ai eu la chance d'avoir de temps en temps des petits déjeuners avec mon ami José, mon frère. Et je lui ai dit que j'avais une idée qui me trottait, je voulais parler de Jésus. Alors vous allez me dire, c'est la moindre des choses. Mais j'avais envie d'y revenir. Et puis, quand j'ai vu en effet que c'était le baptême, je me suis dit que c'était peut-être le moment encore plus de parler de Jésus. Alors, je voulais vous en parler d'une certaine manière. Justement, par rapport à ce baptême-là, qui était, Michel va se baptiser, se faire baptiser, mais pourquoi elle est venue ici? Pourquoi elle n'a pas été chez les musulmans, chez les juifs, chez les bouddhistes, chez les hindouistes? Pourquoi elle n'est pas restée athée? Je veux dire, il y a quand même une offre large, aujourd'hui, en termes de religion. Et ce qui m'a fait penser à ça aussi, c'est un livre que ma fille m'a fait acheter, parce que c'est moi qui paye, il y a très longtemps. Elle était au salon du livre de Montsartou, et elle m'a dit: papa, il faut qu'on y retourne, j'ai trouvé un très beau livre avec ma classe qui s'appelle La Cité Babel. Alors, il a fallu qu'on y retourne, j'étais impressionné qu'elle veuille lire ceci. Et en fait, c'est un livre très intéressant, puisque il présente une cité dans une ville. Et à chaque étage, habitent des gens de religions différentes. En bas, il y a l'épicier athée. Au premier étage, il y a la famille chrétienne, un peu catholique. Au deuxième étage, il y a la famille juive. Au troisième étage, la famille musulmane. Et du coup, chacun vit là en bonne harmonie, heureusement. Et ça permet aux enfants et aux adultes de découvrir les différentes caractéristiques de toutes ces religions-là. Et je me rappelle que Nikita m'avait dit: moi, je suis au premier étage, dans la famille chrétienne. Oui, mais peut-être que si tu étais né dans un autre endroit, tu ne serais pas dans cet étage-là. Et je lui ai dit: mais c'est plus tard que tu choisiras vraiment à quel étage tu veux être, en espérant que ça soit le premier. Et Michel désire être au premier étage. Mais pourquoi, vu l'appel d'offre qu'il y a? Et du coup, j'aimerais vous lire un extrait de Marcel Pagnol. Je dis aujourd'hui, ça, c'est un peu open bar, hein, ne m'en voulez pas, mais c'est comme ça que je voulais que ce soit, j'avais envie de vous dire les choses comme ça. Donc j'espère ne choquer personne, mais j'aimerais qu'on se mette dans l'état d'esprit de quelqu'un qui, Michel va dire, tiens, peut-être à ses collègues, hier je me suis fait baptiser. Qu'est-ce que cette histoire? Pourquoi? Qui? Comment? Et essayer de se mettre dans l'état d'esprit des gens qui peuvent recevoir ça. Alors vous connaissez tous la trilogie de Marcel Pagnol, hein, Marius, Fanny et César. Et dans le troisième tome, César, le vieux Panis, meurt. Celui qui a épousé Fanny, etc. Et ils sont devant le corps, enfin dans la chambre qui est juste à côté. Et donc César, Honorine, enfin je ne vous fais pas un résumé des personnages, je vais le lire avec l'accent, sinon ça ne marche pas. Hein? Je fais ce que je peux. Voilà, alors. Donc il y a Claudine, Honorine, Escartefigue, Monsieur Brun et César. Donc Claudine, Honorine dit, en parlant de Panis, ça au moins c'est une belle mort. César, ah vaille, c'est une belle mort pour les autres. Mais moi j'aime mieux une laide vie qu'une belle mort, parce que la mort, on ne sait pas où ça va. Honorine, ah quand on serait bien confessé, bien repenti, ça va au paradis. César, oui, bien sûr, enfin peut-être. Mais moi, il y a une idée qui me tracasse. Le bon Dieu du curé, le nôtre, enfin. Et si ça n'était pas le vrai?
Oh, coquin de Dieu, mais qu'est-ce que vous dites?
Je veux dire que je connais des musulmans, des hindous, des chinois, des nègres. Leur bon Dieu, ce n'est pas le même. Ils font pas comme nous. Nous avons des péchés que chez eux, c'est une bonne action, et vice-versa. Peut-être qu'ils ont tort, remarquez bien. Seulement, ils sont des millions de milliards. Et s'ils avaient raison, monsieur Brun? Ah, il est certain que la question peut se poser. Le pauvre Panis est tout préparé bien au goût du bon Dieu de notre curé. Mais si, en arrivant au coin d'un nuage, il se trouve en face d'un bon Dieu à qui on ne l'a jamais présenté, un bon Dieu noir, ou jaune, ou rouge, ou un de ces bondus habillés en guignol, comme on en voit chez l'antiquaire, ou celui qui a le gros ventre, ou bien celui qui a autant de bras qu'une esquinade. Et le pauvre Panis, qu'est-ce qu'il va lui dire? En quelle langue? Avec quel geste? Tu te vois, toi, escarpe-figue, déjà fatigué par ta mort et tout vertigéné de ton voyage, en train de t'expliquer avec un dieu qui ne te comprend pas. Et tu as beau lui faire des prières, il dit « Quoi? Comment? Qu'est-ce que vous dites ?» Et il te le dit en chinois. Oh, situation terrible, César. Là, tu me donnes le grand frisson. Honorine, taisez-vous, grand mécréant. Et la Sainte Bible, alors c'est des mensonges? Et les évangiles? Vous n'avez pas honte de dire des choses pareilles devant l'enfant de cœur? Et si vous alliez un peu plus souvent à l'église, au lieu de boire tant de pastis, vous sauriez qu'il n'y a qu'un Dieu, et ce Dieu, c'est le nôtre. Réponse de César. Eh oui, évidemment, évidemment, le bon, c'est le nôtre. Mais alors, sur toute la terre, il y a beaucoup de gens qui sont couillonnés. Ça me fait de la peine pour eux. Voilà. Donc, guise d'introduction, c'est un peu l'état d'esprit de pas mal de gens. Pourquoi voilà, mais pourquoi les autres, à ce moment-là, ils sont... Parce qu'ils ne sont pas au bon étage de notre maison. Pourquoi ils ne sont pas au bon étage de notre maison? Parce que culturellement, ils ne sont pas nés là où il faudrait. Peut-être, toi, tu étais dans une famille avec une grand-mère qui te parlait de la Bible. Si ta grand-mère t'avait parlé du Talmud ou du Coran, ou avait eu le petit livre rouge de Mao, peut-être que tu n'en serais pas là aussi. Et que tu te dirais, je ne peux pas me convertir au christianisme, je ne peux pas me faire baptiser, ça ne correspond à rien à ce qu'est ma culture, à ce que j'ai reçu. Donc, ce ne sont pas des questions idiotes que l'on se pose là. À quel point notre culture interagit sur notre foi? C'est pour ça que j'ai d'autant plus de respect pour les gens qui viennent d'un autre milieu, soit juifs, musulmans, hindouistes ou complètement athées, communistes, et qui acceptent et qui décident de se convertir et de se faire baptiser. Parce que là, il y a un vrai choix. Il y a une vraie rupture avec un milieu, avec sa propre enfance souvent. Et là, il y a un véritable engagement. Je ne dis pas que les gens comme moi, qui venaient d'un milieu chrétien, comme toi, qui se font baptiser, non, leur engagement n'a pas la même valeur du tout. Mais peut-être que la remise en cause initiale a été moins forte. Alors, revenons à cette cité Babel. Il est question de... C'est très amusant de lire chaque page. Il n'est question dans les pages musulmanes, juives, que de règlements, de traditions, d'histoires d'hommes et de femmes reliées à Dieu, d'efforts personnels. Si vous me permettez, vous ne l'entendrez jamais qu'une une fois, mais ça sera ici, voilà. Donc là, je suis dans le quatrième étage, dans la famille musulmane. Le drapeau du Maroc, d'où est originaire la famille de Safia et Jalil, comporte une étoile à cinq branches qui symbolise les cinq piliers de la religion musulmane. Ce sont cinq obligations que chaque musulman doit respecter. Le premier pilier, le témoignage. Tout musulman doit attester qu'il n'y a que Dieu, etc. Le second, la prière. Tout musulman doit prier cinq fois par jour. Le troisième, l'aumône purificatrice. Le quatrième, le jeûne du Ramadan. Et le cinquième, le pèlerinage à la Mecque. Et Kabira, la grand-mère, porte un voile sur sa tête par respect envers Dieu et la tradition. Donc là, et toutes les pages qui vont suivre, expliquent de manière très intéressante cette religion, cette foi, mais toujours sous l'angle des fêtes et des obligations à respecter pour essayer d'être à la hauteur. Si on va au deuxième étage dans la famille juive, il y a plein de choses évidemment très intéressantes, je vais juste vous en lire une. Aujourd'hui, c'est le nouvel an juif, Rosh Hashanah. On fête la création du monde, on célèbre Dieu qui a créé les hommes. À la synagogue, on se réunit, on s'échange des vœux. La fin de la cérémonie est marquée par la sonnerie du shofar, une corne de bélier qui rappelle le bélier sacrifié par Abraham à la place de son fils. Au cours du repas, on mange notamment des pommes trempées dans du miel pour que l'année soit à venir, soit douce. La fête est suivie de 10 jours de pénitence, pendant lesquels on fait le bilan du bien et du mal qu'on a commis au cours de l'année passée. Ensuite, ce sera Yom Kippour, le grand pardon. Ce jour-là, on ne travaille pas, on jeûne, on prie, on reconnaît ses fautes, on demande pardon à Dieu et aux autres, et on pardonne le mal qu'on nous a fait. Et dans toute cette histoire de cette famille juive, voilà, c'est une succession de fêtes qui répondent encore à des obligations, à des choses précises, des prescriptions auxquelles on doit se plier pour être vraiment bien dans le canon de cette religion-là. Alors, chez les athées, il y a des... hindouistes qui viennent, il y a quelques bouddhistes, il y a même notre cher épicier athée qui n'a qu'un seul défaut, il est superstitieux. Il croit en rien, mais par contre, dès qu'il casse quelque chose ou qu'un chat passe sous son échelle, aussitôt, il est vraiment très, 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 très inquiet parce qu'il est superstitieux. Je voudrais juste vous lire la visite de la religion de Bao et Abin, qui sont ses clients de religion bouddhiste. Ils suivent l'enseignement de Bouddha, un sage qui vivait en Inde il y a environ 2500 ans. Tourmenté par les souffrances de l'homme, celui-ci a un jour décidé de quitter sa vie confortable pour chercher la voie de la délivrance. On raconte qu'après des années d'errance et de méditation, il a enfin trouvé la sérénité et la sagesse. Suivant son exemple, les adeptes du bouddhisme cherchent à être heureux en étant bons et purs, non violents, en menant une vie très simple, détachée des choses matérielles et en respectant tout ce qui vit. Souvent, ils méditent, ils se concentrent et vident leur esprit de toute pensée. Ils croient qu'après la mort, on peut se réincarner et renaître dans un autre corps. Et plusieurs mois par jour, ils font un régime végétarien. Et aujourd'hui, chez Félix, pas de viande au menu. Imaginez ce livre dans la main d'une petite fille, d'un petit garçon, comme il est très troublant. Parce qu'il explique de façon très ouverte, sans aucun jugement, toutes les différentes fois et les non-fois, qui est une forme de foi aussi, des gens sur Terre. Mais quand on va au premier étage, dans la maison chrétienne, un peu catholique, mais on ne va pas se battre, ce qui est très étonnant, c'est qu'à chaque page, on ne nous parle pas de « il faut », on nous parle que de Jésus. Ces dames, qui doivent être, je ne sais pas du tout quel est leur fond de foi, si je puis dire, à chaque page, le mot de Jésus est indiqué. Jésus est né là. Il est né de Marie, il a été ressuscité, il est apparu à ses apôtres. Chaque page, Jésus est là. Et c'est là que je me suis dit, voilà la différence. En termes de marketing, c'est le principe du mieux-disant. C'est-à-dire, toutes les religions, quand on les a là, on se dit, bah, c'est très bien, si j'étais né à Marrakech, bah, ça me paraîtrait très bien, être musulman, si j'étais né à Jérusalem, ça ira, enfin tout est... Mais quand je tombe sur la page du christianisme, en dehors de mon occidentalité culturelle, on me parle de quelqu'un. On me parle d'un homme qui a vécu des choses comme moi. Et, alors, je ne vais pas tout vous lire, parce que mais vous le connaissez. Tout ce qui, ces gens ne s'en sont pas rendus compte, mais ils ont donné la clé qui fait qu'aujourd'hui, Michel va se faire baptiser. C'est que Jésus et dans nos vies. Et ce n'est pas quelqu'un qui est au-dessus de nous, à qui on doit rendre des principes très précis, des obligations. Évidemment qu'on a un rapport d'obéissance à Dieu, mais on a ce rapport à travers le prisme de Jésus. Et Jésus, ce n'est pas quelqu'un, une entité qu'on ne connaît qu'à travers des lois, ou des peurs, ou des obligations. C'est quelqu'un dont on peut dire... Il a vécu comme moi tel épisode, tel épisode, tel épisode. En ce moment, il y a une pub pour les voitures. Je ne sais pas si vous entendez, je crois que c'est Ford. Non, ce n'est pas Ford. Ça doit être Peugeot ou Renault. Enfin, qu'importe. Et il y a Teddy Riner qui est dedans. Je ne sais pas si vous la voyez. Il est là et tout. Et il est tout le temps. Et le mec dit, on va mettre telle option. Et Teddy Riner, on peut plus, on peut plus, un peu plus. Et à la fin, ils mettent la super option dans la super voiture. Donc, tout le monde doit se précipiter pour cette voiture dont j'ai oublié la marque. Eh bien, Teddy Riner... Dans notre cas, il dit, si vous voulez que votre foi, elle fonctionne, mettez Jésus dedans. Expliquez aux gens qu'il y a Jésus, et vous allez voir qu'à ce moment-là, c'est quelque chose qui va leur parler. Alors ça peut-être, ça leur parlera plus, ils ont été par leur grand-mère qui déjà leur a présenté la Bible quand ils étaient petits, mais ça peut leur parler tout autant, qu'on soit de Marrakech, de Jérusalem, d'une ville d'Inde, ou etc. Parce que Jésus, c'est le plus... envoyé par Dieu, pour qu'on comprenne mieux nos vies, parce que lui l'a vécu pareillement, et peut nous donner à chaque fois l'exemple à suivre. Vous savez qu'il n'y a rien de pire que ces gens qui vous disent « mais tu devrais le faire comme ça !» et qui eux ne le font pas. C'est épouvantable ça, les donneurs de leçons qui ne se donnent pas ces leçons à eux-mêmes. Jésus, ce qui est bien, c'est que toutes les leçons qu'il nous donne, ou les conseils, il a d'abord expérimenté lui-même ce qui se permet de nous dire. Alors, je vais aller un peu plus loin, puisqu'on était, les voitures étaient d'Irinaire, c'est pour ça que j'ai dit qu'aujourd'hui c'était une prise de parole un peu particulière. Je vais essayer de vous vendre mes voitures des différentes religions. D'accord ? Et on va voir en quoi notre voiture à nous, elle a un plus, non pas parce que culturellement on l'a décidé ou que ça nous arrange, parce que vraiment, si je dois acheter une voiture pour rouler dans ma vie, à l'arrivée, il n'y a pas photo. Alors prenons, alors je leur ai donné des noms, par exemple, prenons la voiture, on va l'appeler la laïque. Qu'est-ce que tu as acheté hier ? J'ai acheté une laïque, c'est bien. Voilà, donc ça, c'est la voiture des athées. Alors, c'est une voiture moderne, tout est électrique, tout est précis, tout est électronique, tout est réglé, même c'est même une voiture électrique, comme ça on est écolo. On est bien dans son temps, on pense bien, on pense au moment présent, une espèce d'horizontalité qui fonctionne. Le seul problème avec la laïque, c'est qu'on ne fait que reculer le problème. Parce que déjà, il faut des batteries qui vont polluer un moment ou l'autre. Là, je me retourne, je suis ingénieur, hein, etc. Et puis, cette électricité qu'on prend, elle est bien fournie par quelque chose qui va être du nucléaire ou du charbon, et donc on va polluer plus tard. Donc, si on roule en laïque, sur le moment, on est rassuré, mais le problème de notre pollution intérieure, un moment ou l'autre, il va se reposer. Donc c'est une voiture qui ne donne pas satisfaction sur toutes ses promesses de vente. Maintenant, on va essayer peut-être d'acheter l'Indou X. Une bonne voiture, l'Indou X. L'Indou X, alors, ça vient d'Indou X, donc ça, c'est tous les multidieux, c'est beaucoup de gens... C'est les religions les plus anciennes. Chaque arbre était un dieu. Et encore aujourd'hui, il y a une espèce de multidéisme qui se remet un peu en route. Alors, cette voiture, c'est une véhicule d'occasion. Hein. Il n'y a aucune pièce d'origine. Bon, elle n'est pas chère, certes, mais elle est très, très peu fiable. Parce qu'à force de mettre ensemble des pièces qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, elle tombe en panne. Elle n'est plus cotée à l'Argus depuis très longtemps. Donc l'Indou X, à mon avis, elle a fait son temps, et c'est vraiment pour les petits budgets spirituels. Ensuite, on peut vous proposer la Bouddha. La Bouddha est pas mal. Alors c'est une voiture à pédale, qui est livrée en kit, avec option selon le vœu du client, et ça a monté soi-même. Donc, on met vraiment ce qu'on veut dans la Bouddha. Un peu de christianisme, un peu de ceci, un peu de cela. Et c'est très écologique du coup, mais ça a une très faible autonomie. Et ça finit souvent dans le garage. Parce qu'au bout d'un certain temps, on se rend compte que cette voiture à pédale qu'on a construite soi-même ne nous amène pas loin. Ou demande une telle énergie pour la faire avancer qu'elle n'est d'aucune utilité. Après, on a la Moïse. Une bonne voiture, la Moïse. Alors c'est un exemplaire de voiture unique. En un exemplaire, ils ont fait série très limitée. Il y a un carnet d'entretien de plusieurs milliers de pages, hein, pour savoir comment ça fonctionne. Et elle est seulement utilisable par les membres de la famille. On ne peut pas les prêter à quelqu'un d'autre, on ne donne pas les clés à quelqu'un d'autre. Elle est produite exclusivement dans ces usines de Jérusalem. Donc forcément, si vous voulez une voiture comme ça, vous allez avoir du mal à vous la procurer parce qu'il va falloir rentrer dans beaucoup de cases. Ensuite, vous avez la Ramadan. C'est bien la Ramadan. Alors ça, c'est une voiture... un exemplaire de voiture, elle a que des options de base, mais c'est en série illimitée. Là, vous pouvez la trouver partout. Elle était exportable dans le monde entier. Alors, le problème, c'est qu'il n'y a pas de direction assistée. Donc, elle a une conduite déconseillée aux femmes surtout. Hein. Elle a un GPS qui est réglé uniquement sur la Mecque. Et le gros problème, c'est qu'elle a un manuel d'utilisation seulement en arabe. Donc, il faut se mettre à l'arabe pour comprendre quelque chose. Et ça, c'est quand même, ça limite un peu, mais... C'est une voiture qui se vend bien, qui s'exporte. Et enfin, une autre bonne voiture, c'est la Bonne Nouvelle. Alors la Bonne Nouvelle, il y a plusieurs modèles disponibles selon les continents. Il y a même une version Vatican avec la Vierge Marie qui pend sur le rétroviseur. Alors elle a une grosse faiblesse sur les essieux historiques. Hein, l'Inquisition, les croisades, le prosélytisme d'État. Ça, il y a eu des gros travaux à faire dessus parce qu'il y a eu beaucoup d'accidents avec cette voiture. Mais bon, ça s'est amélioré. Mais ce qui est génial, c'est qu'elle a une garantie éternelle, pièce et main d'œuvre, pour chaque véhicule acheté. Et surtout, et c'est là que je remercie Teddy Riner, c'est qu'il y a une mise à disposition à vie d'un chauffeur réparateur agréé, disponible 24 heures sur 24. pour vous guider dans les embouteillages, les trajets difficiles, les pannes d'essence, les pneus crevés. C'est le plus de la bonne nouvelle. Et ça, vous pouvez prendre n'importe quelle autre voiture, on ne vous livre pas le chauffeur réparateur avec. Et ça, croyez-moi, quand vous allez acheter une voiture, c'est un super argument. Évidemment, ce chauffeur réparateur, ce n'est pas n'importe qui, c'est Jésus, vous l'aviez compris. Alors, pour imager un peu ce que je viens de dire, j'aimerais vous lire un seul exemple de la vie de Jésus que vous connaissez tous, mais on va le relire sous l'angle automobile. On va aller dans Jean. C'est un qui me regarde avec des yeux. 1:11. C'est la femme adultère. D'accord ? Donc je vous relis ce passage. Tu peux le mettre si tu le souhaites. Donc on va commencer au verset 3. Je vous le redis. Mais je sais que pour vous c'est inscrit. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus : Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu ? Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit : Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit : Femme, où sont ceux qui t'accusaient ? Personne ne t'a-t-il condamné ? Elle répondit : Non, Seigneur. Et Jésus lui dit : Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Alors évidemment, dans cette histoire, il y a tout ce qu'on aime en Jésus, tout ce qui nous touche. Parce que tout y est, en fait, de la présence de Jésus dans notre vie. Cet épisode intervient à un moment réel de l'existence de cette femme. Ce n'est pas un truc inventé, c'est même un truc banal, l'adultère, malheureusement. Et Jésus intervient à un moment précis de sa vie où elle a besoin de lui, où elle est en problème, elle s'est mise dans une mauvaise situation. Ce n'est pas quelque chose de philosophique, c'est un vrai problème au jour J et au temps T et à leur H. Ensuite, la solution qu'il préconise, c'est pas d'aller transformer les pierres en M&M's, c'est pas de pulvériser les jeteurs de pierres, pas du tout. Simplement, par juste le biais de quelques questions intelligentes, il va transformer ce monde-là, mais juste en nous le faisant voir sous un autre angle. Mais vu de l'extérieur, quelqu'un qui verrait les choses de l'extérieur, qui n'entendrait pas ce que dit Jésus, dirait c'est un non-événement, ils ont pris des pierres, finalement ils ont posé et ils sont partis. La transformation que fait Jésus de notre monde, de notre vie, elle n'est absolument pas spectaculaire, c'est pas un film américain, c'est des petites choses toutes simples qui passent par le biais de la réflexion, de l'intelligence, de la sensibilité, du sentiment. La transformation que Jésus fait en nous, elle se fait à notre image d'humain. Troisièmement, il intervient dans nos moments de faiblesse aussi. Là, évidemment, c'est un grand moment de faiblesse que cette femme ne peut nier. Ça me rappelle, je vais revenir à Marcel Pagnol, dans le château de ma mère, vous vous souvenez, à un moment, ils connaissent le garde qui a donné les clés, enfin, je ne sais plus qui, donc ils peuvent traverser pour rejoindre leur propriété, sinon ils ont un chemin à pied qui est terrible à faire depuis Manosque, Marseille, et là, en passant à travers des propriétés privées, le long du petit canal, ils sont chez eux en 3 heures. Pour eux, c'est extraordinaire. Et à un moment, il y a le garde avec un gros chien qui les surprend. Et le père de Marcel Pagnol a la clé qui n'a pas été volée, mais enfin, la clé qu'on lui a donnée, qu'on ne devait pas donner, et il a cette phrase extraordinaire : on n'est jamais aussi faible que quand on est dans son tort. Et ce qui nous arrive devant Jésus, j'allais dire 100 fois sur 100, c'est quand on est en face de lui et qu'on sent qu'il nous reprend ou qu'il nous regarde, c'est parce qu'on est dans notre tort. Et là, si on est vraiment convaincu de notre foi et de ce qu'on vit avec lui, à aucun moment, on dit, bah quoi, oh, ça va. Non. Et on se sent d'une faiblesse, mais d'une faiblesse lamentable, on a honte. Et c'est là que Jésus est aussi. Évidemment qu'il est là dans les bons moments, mais c'est drôle, on est heureux de partager avec lui, mais n'oubliez pas que c'est dans les moments de faiblesse personnelle que Jésus peut intervenir, qu'on a besoin de lui et qu'il est surtout disponible. Ce n'est pas un Dieu qui est loin de ce que nous vivons, de ce que nous ressentons. Ensuite, il nous traite en adultes. Il aurait pu, cette femme, lui dire « c'est pas bien, tape sur les mains, pam, bim, tu fais quatre pages de conjugaison comme punition. Enfin, » non, raisonne, Dieu nous traite en adultes. C'est pour ça que le baptême de l'adulte est important. Parce que c'est un choix. Alors, on peut faire baptiser les enfants si ça nous rassure, si ça nous arrange. Et si on a la terrible folie de croire qu'un enfant qui mourrait en très bas âge, s'il n'avait pas été baptisé, n'aurait pas droit à être avec notre Seigneur. Ce n'est pas le Dieu que je connais. Qu'importe. Le baptême, c'est un choix d'adulte. C'est une responsabilité personnelle qu'on doit faire avec son intelligence, son âme, sa conscience. Parce que lui nous traite en adulte. À chaque fois, de moment de notre vie, on est en faiblesse, on a un souci. Il nous demande de régler ce problème en nous traitant en adulte. Enfin, il nous responsabilise, puisqu'il lui dit « Va, mais ne pêche plus. Fais ton boulot. » Et tout ça signifie évidemment qu'il nous aime. Donc ça, c'était un résumé rapide. On pourra en faire des heures sur ça, mais je voudrais revenir à ma petite parabole automobile et je terminerai sur ça. Imaginez, donc on est dans la bonne nouvelle. Il y a cette femme qui conduit. Et comme elle a pris la bonne voiture, à côté, il y a Jésus, guide, chauffeur, il est là, tout le temps. Cette femme, elle brûle un feu rouge. Brûle un feu rouge. Il y a la police, ils sont quatre, pas avec des grosses pierres, mais avec des sifflets, sur le bord de la route. Qu'est-ce qu'elle dit, la femme? Rien, j'ai grillé un feu rouge, j'ai grillé un feu rouge. Et Jésus, à côté, dit, bah oui, t'as grillé un feu rouge. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bon. Alors, la police... elle sait qu'il y a ce gars qui est dans toutes les voitures bonne nouvelle. Il commence à l'ennuyer parce qu'à chaque fois, il est là, espèce de médiateur. Alors, hein, ta petite chauffeuse, là, paf! Là, le feu rouge, elle se l'est pris, c'est 6 points. Tu fais quoi? Hein? Tu n'y enlèves pas? Tu n'enlèves pas, tu ne respectes pas le code de la route? Tu ne respectes pas la loi? Donc, on va vivre dans une société d'anarchie. Je t'écoute. Jésus, à ce moment-là, lui, il sort les cartes. Qui était dans la boîte à gants, puis il regarde les cartes. Très bien. Alors, que dit-il après avoir regardé ces fameuses cartes? Il dit, écoutez, que ceux d'entre vous qui n'ont jamais grillé un feu rouge, jamais brûlé un stop, s'est jamais mis sur une place handicapée pour aller juste faire les courses à Carrefour parce qu'il n'en peut plus parce qu'il fait tellement chaud, allez-y, enlevez-lui les 6 points, c'est mérité. Et là, il y a tous nos gardes dans le chaussée. Fait ça, etc. Et allez, ils remballent le carnet d'amende et ils partent. Il y a la femme qui est au volant, enfin, parce que sinon son mari allait la massacrer au retour, ou elle se massacrerait elle-même, parce qu'elle n'avait plus que 6 points, et c'est une catastrophe. Il dit, alors, ils sont les gendarmes? Eh ben, ils sont partis. Voilà. Donc, il retourne un coup sur sa carte. Qu'est-ce qu'il voit sur sa carte? Il voit le chemin de vie de cette femme qui a loué cette voiture au début de sa vie pour aller jusqu'au bout. Et donc, il sait qu'il y a un chemin à parcourir. Elle doit aller du point A au point Z. Le problème, c'est qu'avec ce feu rouge grillé, elle va perdre du temps. Donc, il va falloir trouver un autre itinéraire pour quand même aller sous la direction de ce guide et de ce réparateur dans la bonne direction, là où il veut qu'elle aille, parce qu'il veut qu'elle soit en sécurité. Le problème, c'est qu'il faut réviser la carte et ça va peut-être prendre quelques minutes, quelques heures, quelques jours, quelques douleurs, quelques larmes, quelques souffrances de plus. Mais t'as grillé le feu rouge, c'est pas grave, on va trouver une solution. Va, roule, mais ne recommence pas à griller les feux. Pour gagner 2 minutes, t'as peut-être perdu 1 heure. Alors, évidemment, c'est très... enfantin, ce que je viens de vous dire, mais si j'en ai parlé aujourd'hui sous cette forme-là, c'est que J'ai conscience que quand on dit aux gens qu'on se fait baptiser, on rentre dans leur sphère personnelle et c'est des choses que les gens vont apprendre d'une manière ou d'une autre. Et à ce moment-là, il faut peut-être avoir des idées simples, nous, sur ce qu'est le baptême et sur ce que ça veut dire comme engagement. Et je trouvais que cette idée des voitures, tout aussi simpliste qu'elle est, permet de nous faire prendre conscience qu'on a vraiment cette chance, nous, d'avoir notre guide, réparateur, chauffeur attitré à côté de nous. C'est ça le plus qui fait que, quelle que soit la culture de laquelle on vient, quelles que soient nos expériences, à un moment ou l'autre, l'option Jésus, c'est la bonne option. Et c'est comme ça qu'il faut le vendre. Il ne faut surtout pas le vendre comme un objectif culturel, parce que culturellement, au nom du christianisme, vous savez, il y a beaucoup de choses pas bien qui ont été faites. Et je pense que Daniel, la semaine dernière, a dû en parler peut-être. Ce n'est pas ça. Mettons Jésus au cœur de tous nos témoignages. Et le baptême en est un. S'il n'y a pas Jésus, on est une voiture comme les autres et on n'a pas de raison d'être plus fier de notre modélisation, de toutes les options que l'on a pu choisir. La seule chose qui fait la différence, ce n'est pas la qualité de la voiture, c'est la qualité de la personne qui est à côté de nous. Et quand on lui achète sa voiture, il signe un contrat à vie, garantie illimitée, de quelqu'un qui sait comment on peut griller des feux rouges, parce qu'il aurait pu en griller. Et ça, c'est la seule vraie raison de se dire chrétien et d'accepter de se faire baptiser à 5 ans, quelques années, alors qu'on a déjà été baptisé à 2 ans ou un an, et de dire j'accepte, j'affirme. Si on ne parle pas de Jésus qui est avec nous à la place du passager, ben alors on peut aller dans n'importe quelle maison de la cité Babel, ça ne changera pas grand-chose.